en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Quel est l'état des ressources énergétiques dans le monde ? Tel est le sujet développé par Pierre Gadonex, actuel président du Conseil mondial de l'énergie, le CME, lors de la communication qu'il a donnée devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance le lundi 23 janvier 2012. Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances. Vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bassid-Bruguière, qui présente en le résumant le parcours de Pierre Gadonex.
En réalité, on ne présente pas M. Pierre Gadonex. Il est fort connu. Tout le monde, dans l'appellation populaire, l'appelle M. Gaz de France, bien qu'il ait bien d'autres titres à son actif depuis. Cependant, sa carrière est si intéressante que je ne résiste pas, comme historienne, à la détailler pour ceux de nos confrères qui ne la connaîtraient pas exactement. Vous êtes, monsieur, un homme du concret. Votre formation à l'origine est celle d'un ingénieur. Vous êtes polytechnicien, vous avez fait l'École nationale supérieure de pétrole et des moteurs avec des galons d'économiste, puisque vous avez une licence de sciences économiques et un doctorat de business administration obtenu à Harvard. Vous avez commencé votre carrière dans l'industrie des polyamides à Aquitaine Organico. Mais dès 1972, vous êtes passé au financement industriel en entrant à l'Institut de développement industriel. Vous avez été très vite appelé successivement au cabinet de deux ministres de l'industrie, M. Michel Dornano et M. René Monory. Puis vous êtes passé à la conduite de la politique industrielle comme directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques, au ministère de l'Industrie de 1978 à 1986, et vous étiez alors aussi commissaire adjoint du gouvernement auprès d'EDF, ce qui vous a permis d'abord de passer au Gaz de France, comme directeur général en 1987, puis président-directeur général de 1996 à 2004, et d'ailleurs vous êtes resté président d'honneur du Gaz de France. Ensuite, vous êtes revenu à la tête d'EDF comme président-directeur général de 2004 à 2009 et vous êtes resté aussi président d'honneur de cet organisme. Vous étiez président du Conseil français de l'énergie depuis 1993. Vous avez été élu président du Conseil mondial de l'énergie en 2006 et réélu à ce poste pour 3 ans en 2010. Ce Conseil mondial de l'énergie est la première organisation mondiale sur l'énergie. Elle a été créée en 1923 et elle rassemble aujourd'hui 93 pays. Dans 93 pays, les principaux acteurs de toutes les sources d'énergie pour contribuer au débat sur le futur énergétique mondial. Aujourd'hui, qui est le premier jour de l'année du dragon en Chine, je trouve particulièrement approprié de nous intéresser à l'énergie, qui représente l'élément du feu. Et je vous donne, Monsieur le Président, la parole pour nous instruire sur ce sujet.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis heureux de cette occasion de partager avec vous aujourd'hui ma vision des grands enjeux mondiaux des ressources mondiales de l'énergie, et ceci à un moment où l'énergie redevient sur le dessus des préoccupations des différents responsables énergétiques, industriels ou politiques dans le monde. Et l'année 2011, de ce point de vue, nous a rappelé, peut-être douloureusement sur certains aspects, l'urgence qu'il y avait à préciser, à revisiter nos options en matière énergétique. Pour vous illustrer ce que je veux dire, je vais vous citer quelques événements de l'année 2011 qui nous amènent à nous réinterroger sur les grands enjeux énergétiques. L'année 2011 a commencé avec le printemps arabe. C'était le 14 janvier qu'en Tunisie, cet concept a pris sa naissance. Alors ce printemps arabe démontre la détermination des peuples à accéder à des nouvelles formes de liberté. Mais il faut bien voir qu'en matière énergétique, cette révolution arabe, et avec la contagion qui s'est développée et qui peut se développer, a suscité une grande volatilité sur le prix du pétrole et de l'énergie. et elles ont fait prendre conscience au monde, ce qu'on avait un peu oublié depuis la grande crise du pétrole, de l'impact des incertitudes géopolitiques sur les marchés de l'énergie. Deuxième événement qui, en 2011, nous ont rappelé l'importance de revisiter une politique énergétique, c'est bien sûr le 11 mars dernier, le gigantesque tsunami au Japon, qui a provoqué des milliers de victimes, mais qui a eu aussi une conséquence dramatique sur la centrale de Fukushima nucléaire, rappelant là aussi de façon dramatique à tous les pays du monde qu'aucune technologie énergétique n'était absolument sûre et que la sûreté des énergies, premier des rangs desquels la sûreté nucléaire, doit faire l'objet de règles mondiales acceptées et qu'il faut revisiter une forme de gouvernance mondiale. J'y reviendrai car c'est, je pense, une des conclusions qu'il me paraît souhaitable de tirer de cette situation. Enfin, ça a été moins illustré par la presse, en décembre dernier, en décembre 2011, les négociations internationales sur le climat, vous savez, c'est la suite de Kyoto, le processus de Kyoto ou de Rio, ces négociations internationales se tenaient à Durban, en Afrique du Sud, et elles ont abouti à un échec, une impasse. La sortie de cette réunion s'est traduite par le fait que l'Europe est pratiquement aujourd'hui la seule entité, avec une petite poignée d'autres pays, qui soit prête à s'engager dès maintenant sur une trajectoire plus forte, contrainte pour maîtriser les émissions de CO2. Le monde entier est confronté à la difficulté de résoudre conjointement les enjeux de la crise économique et de la crise climatique, ont décidé pour la plupart de sortir de ce processus, ou de ne pas y entrer, puisqu'il y en avait beaucoup qui n'y étaient pas. Et en France, c'est pas vrai dans tous les pays, ces événements ont eu un écho particulier, et ont amené l'opinion publique française, peut-être que la conjoncture politique l'a favorisé, mais c'est pas certain, à se réinterroger sur la politique énergétique. Et ceci, et je voudrais raconter cette anecdote, alors que jusqu'à il y a quelques années, il y avait un véritable consensus, peut-être un consensus mou, en ce sens qu'il n'y avait pas d'opposition virulente, mais il y avait un consensus. Et je voudrais, pour vous montrer à quel point ce consensus se traduisait dans les comportements des leaders, vous vous souvenez tous qu'en 2007, au moment de la campagne électorale, deux candidats sont affrontés dans un duel, les deux candidats à l'élection présidentielle, c'est en 2007. Et qu'à un moment, on leur a posé la question à tous les deux, quelle était la part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité? L'un a répondu 50% et l'autre 15%. La réalité est de 75%. Le lendemain, j'étais aux États-Unis et tous mes collègues du Conseil mondial m'interrogent en disant « Mais qu'est-ce que ça vous a fait, vous, président d'EDF, de savoir que les principaux candidats ne connaissaient pas une des données fondamentales de la politique énergétique ?» Eh bien, j'ai répondu « C'est une formidablement bonne nouvelle. » Parce que ça voulait dire que l'un comme l'autre, qui sont et qui étaient des professionnels de la politique, n'avaient pas considéré que l'énergie était un sujet clivant. Et ceci a un petit peu changé, comme je vais l'illustrer tout à l'heure, au lendemain de l'accident de Fukushima. Alors ça s'est traduit concrètement par une démarche dans laquelle le Premier ministre a demandé un audit de sûreté à l'autorité de sûreté de notre parc de centrales nucléaires. Puis le ministre de l'Industrie a demandé à une commission de réflexion sur l'évolution à long terme de notre mix énergétique, la commission énergie 2050, de publier un rapport. Enfin, la Cour des comptes a été saisie d'une mission d'audit des coûts du nucléaire. Et ces trois rapports sont sur le point, certains ont déjà été publiés, notamment les conclusions de l'autorité de sûreté, et les deux autres rapports, que ce soit l'énergie 2050 ou la Cour des comptes, vont être publiés dans les prochaines semaines, d'ici le 15 février. Alors cette introduction, c'était pour vous montrer que, à la lumière de ces incidents, de ces faits qui peuvent apparaître comme nouveaux, ma conviction, c'est que les véritables enjeux de la politique énergétique mondiale à long terme n'ont pas changé. Et je voudrais vous rappeler que ces enjeux sont finalement assez consensuels au niveau national et au niveau international. Que face à ces enjeux, les ressources dont disposent les États sont réelles. Il y a des réponses. Encore faut-il les mettre en œuvre. Et enfin, je ferai un petit focus sur la situation française qui a appelé les réflexions que j'évoquais tout à l'heure. Alors, sur les grands enjeux du secteur énergétique, il faut voir au sein du Conseil mondial de l'énergie, bien sûr, j'ai l'occasion de le constater, il y a finalement un consensus, et on le voit à toutes les réunions internationales, sur quelles sont les priorités et les grands enjeux d'une politique énergétique dans le monde. Il y a un consensus sur la définition de ces priorités. La première, même si c'est plus récent, c'est sécuriser l'approvisionnement pour permettre une croissance économique. Sécuriser l'approvisionnement. Deuxième enjeu, c'est les conséquences sur l'environnement des politiques énergétiques, notamment climatiques, mais aussi sur la sûreté. Et enfin, troisième enjeu, il faut bien voir que c'est un enjeu qui, dans certains pays, est tout à fait majeur, c'est comment éviter que le renchérissement de l'énergie aggrave les distorsions et la pauvreté énergétique qui est considérable. Alors le premier enjeu, je voudrais peut-être illustrer que ma conviction est de dire qu'aujourd'hui, il y a finalement un certain consensus sur ce sujet, ça n'a pas toujours été le cas, c'est que le monde a besoin de plus en plus d'énergie. La consommation d'énergie est croissante. Et elle est croissante de façon significative, même si par moments, certains esprits pensent qu'on peut imaginer une décroissance de la consommation d'énergie. Aujourd'hui, le consensus est qu'on a besoin de plus en plus d'énergie. Alors, la consommation d'énergie avait baissé en 2009 du fait de la crise économique. La consommation a re-augmenté en 2010 d'environ 5%. Et l'AIE, qui est l'agence qui fait autorité en matière de prévision énergétique, estime que la consommation d'énergie sur la planète devrait doubler d'ici 2050. Je dis bien doubler. Donc c'est pas à la marge. Et ceci, même en intégrant des efforts extrêmement ambitieux en matière de maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire de réduction de la consommation d'énergie. Les hypothèses de l'AIE sont très ambitieuses sur ce point. Et malgré ça, on a besoin de plus en plus d'énergie pour accompagner la croissance. Et cette demande d'énergie va être croissante dans toutes les formes d'énergie. Je fais une liste, le pétrole va continuer à croître. La demande de pétrole est très inélastique. Quand vous regardez les évolutions du prix du pétrole, pratiquement ça n'a pas d'impact sur la demande, pour une raison qu'il y a un certain nombre d'applications, comme le transport, et tout particulièrement le transport aérien, où il n'y a aujourd'hui pas de substitut. Et donc le baril peut passer de $80 à 125, ça n'a pratiquement pas d'impact sur la demande de pétrole. Le charbon, même si en France, on l'a un petit peu oublié, il représente plus que 3% de la production d'électricité, le charbon reste un élément majeur dans le mix énergétique mondial. Le charbon représente 80% du mix électrique dans des pays comme l'Inde, 70% en Chine, mais aussi 50% aux États-Unis, 40% en Allemagne. Et bien entendu, on aura besoin de plus en plus de charbon pour accompagner la croissance dans ces zones. Le gaz naturel a une nouvelle jeunesse aujourd'hui. Parce que l'offre suscite la demande. Et le fait qu'il y ait eu des nouvelles découvertes de gaz, notamment de gaz non conventionnel aux États-Unis, en Chine, au Brésil, fait que la demande de gaz est fortement croissante, avec un phénomène que nous n'avions pas connu de notre temps. J'ai deux anciens collègues ou prédécesseurs de Gaz de France, c'est qu'il y a maintenant des écarts très forts entre le prix du gaz dans le monde. Alors que le pétrole est à peu près harmonisé au niveau mondial parce que les tankers peuvent bouger, il y a du fait de ces découvertes de gaz non conventionnel aux États-Unis, des écarts très forts entre le prix du gaz entre les États-Unis, l'Europe et le Japon. Ça va de 1 à 3, hein, c'est pas du tout l'épaisseur du trait. L'énergie nucléaire, il faut savoir aujourd'hui que l'énergie nucléaire se développe, même si aujourd'hui on s'interroge en France et en Europe, mais dans les pays émergents et tout particulièrement dans les pays d'Asie, le nucléaire se développe. Il y a aujourd'hui, au moment où je vous parle, 60 centrales nucléaires en cours de construction dans le monde et 90% entre la Russie et l'Asie. Les pays qui développent des centrales nucléaires, dans l'ordre, c'est la Chine, une vingtaine, un peu plus de 20, la Corée, l'Inde et la Russie. C'est là où se construisent les centrales nucléaires aujourd'hui. À côté de ces ressources, l'hydraulique se développe. Il faut savoir que l'hydraulique se développe, il y a un potentiel d'hydraulique considérable dans des pays comme l'Afrique. L'Afrique a un potentiel hydraulique non développé encore considérable, l'Amérique latine, l'Asie, et puis dans les pays où l'hydraulique est déjà largement présent, l'hydraulique va avoir un nouvel engouement, je pense, dans les prochaines années, du fait de la réponse aux préoccupations en matière de stockage de l'énergie. Alors, il y a les énergies renouvelables qui se développent rapidement, on en reparlera, j'appellerai les nouvelles énergies renouvelables, puisque l'hydraulique est la plus ancienne énergie renouvelable, les nouvelles renouvelables, comme l'éolien, le solaire, la biomasse. L'Europe s'est dotée d'un objectif exigeant en matière de production d'énergie renouvelable, 20% à l'horizon 2020. Mais, quoi qu'il en soit, les énergies renouvelables nouvelles se développent, et j'y reviendrai, avec des perspectives qui sont très fonction de leurs coûts respectifs. Alors, cette réponse à la sécurité d'approvisionnement au niveau mondial va et doit, dès aujourd'hui, la réponse doit être des investissements massifs. Et le montant des investissements nécessaires dans le secteur de l'énergie Quand on le met en millions ou en milliards, ça fait tellement de zéros que ça ne signifie plus rien. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus de 1% du PIB mondial, peut-être de l'ordre de 1,5, qui est nécessaire pour financer ces investissements. Alors, bien sûr, les deux tiers de ces investissements seront dans des pays hors OCDE, où aura lieu l'essentiel de la croissance. 70% de la croissance économique sera en dehors des pays de l'OCDE et 90% de la croissance de la population sera en dehors des pays de l'OCDE. Mais il y a aussi besoin d'importants investissements dans nos pays pour une raison, c'est qu'il faut rénover notre parc et notre système de transmission. Il y a un besoin de rénovation du parc et des infrastructures. Alors, deuxième enjeu des préoccupations au niveau mondial, c'est les préoccupations en matière d'environnement. Alors, le climat, ça a été un grand débat. Il faut voir que les années passant, il y a un certain consensus pour considérer que les émissions de gaz à effet de serre, de CO2, ont un impact sur le réchauffement climatique et qu'un objectif de limiter à 2 degrés centigrades d'ici 2050 l'augmentation de la température de la planète moyenne est un objectif nécessaire pour préserver les conséquences défavorables, voire désastreuses, sur la vie sur la planète. Nous sommes très loin aujourd'hui d'avoir ce schéma, puisque les décisions et les investissements qui seront nécessaires ne sont pas aujourd'hui dans le pipe. Aux préoccupations en matière d'environnement, il y a une nouvelle préoccupation qui apparaît, qui est un petit peu liée à l'environnement, c'est la sûreté. Alors bien sûr, on pense à ce sujet pour le nucléaire, où on se préoccupe et les opinions peuvent avoir des réactions très négatives sur le développement de nouvelles infrastructures, dans le cas l'Europe étant particulièrement concernée sur le nucléaire, moins les autres pays, pas du tout les pays émergents, mais c'est vrai aussi pour d'autres formes d'énergie. Et je peux vous dire aujourd'hui, aucune forme d'énergie ne peut se targuer de ne pas avoir de groupe de pression hostile au développement de cette énergie. Toutes les énergies ont des conséquences sur l'environnement, toutes. Alors c'est les nouvelles technologies qui inquiètent, comme les gaz non conventionnels ou le pétrole non conventionnel. Ça peut être les forages profonds, mais ça peut être aussi les éoliennes ou même les énergies solaires qui peuvent susciter des réactions de rejet. Troisième préoccupation, c'est la pauvreté énergétique. Je l'ai cité. Il faut bien voir que c'est un sujet au niveau de la planète qui est un enjeu considérable. Le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a convoqué un sommet sur ce sujet il y a quelques jours. Et aujourd'hui, on estime que sur la planète, il y a pratiquement 2 milliards d'habitants qui n'ont pas d'accès à une forme moderne d'énergie. Et dans les pays développés, la hausse du coût de l'énergie accroît la difficulté de répondre à cette préoccupation. Et de ce point de vue, il est nécessaire de mettre en place des politiques qui permettent d'avoir un accès à l'énergie. Des pays sont très en pointe sur ce sujet dans les débats internationaux. L'Inde est très préoccupée par ce sujet parce qu'il y a encore en Inde de grandes quantités de population qui n'ont pas du tout accès à l'énergie. C'est vrai aussi en Afrique. Alors, si je dis ça, c'était pour rappeler ces grands enjeux. Ces trois priorités, ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est qu'elles doivent être combinées. Et tous les pays du monde se retrouvent pour considérer que ces trois enjeux sont légitimes. Sécurité d'approvisionnement, environnement et accès à l'énergie dans des conditions économiques acceptables. Le problème, c'est que les priorités peuvent bouger dans le temps en fonction des opinions publiques. Et par exemple, la crise économique actuelle a tendance à dégrader les préoccupations en matière d'environnement et même d'accès à l'énergie pour prioriser la sécurité d'approvisionnement. Nous pensons, je fais partie de cela, qu'il est important dans les politiques énergétiques de continuer à préserver les trois préoccupations de façon simultanée. Alors, pour répondre à ces objectifs, quelles sont les ressources dont on dispose ? Alors, je voudrais dire et affirmer un certain nombre de convictions qui peuvent peut-être vous surprendre, c'est que je pense que nous avons les ressources en matière première nécessaires pour approvisionner la planète à l'horizon des deux siècles qui viennent. Nous pensons, et au Conseil mondial de l'énergie, c'est notre conviction. Et en particulier, il y a quelques années, on pensait au peak oil. On disait le peak oil est devant nous. Eh bien, on voit avec les progrès technologiques, les échéances de ce peak oil s'éloigner et la déplétion des ressources repoussée grâce à des percées technologiques. Je vous en cite quelques-unes. Aux États-Unis, ça a été le shale gas. Au Canada, il y a eu le pétrole, le Sunoil. Sable bitumineux. Au Venezuela, au Brésil, il y a du gaz et du pétrole non conventionnel et la conviction qu'on pourra aller trouver du pétrole dans des couches très profondes, sous les couches salines. Si je prends une autre matière première qui est l'uranium, les ressources sur la planète sont tout à fait suffisantes pour assurer pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, l'alimentation du développement des centrales. Donc le problème n'est pas dans la disponibilité des ressources. Le problème, c'est, il est géopolitique, c'est que les ressources ne sont pas nécessairement là où on en a besoin. Et il y a clairement des pays qui sont dépendants des importations et d'autres pays qui sont bien dotés. Et parmi les pays bien dotés, bien sûr, il y a la Russie, il y a l'OPEP, je dirais le Canada, qui est un pays qui a beaucoup de chance. Et puis d'autres pays comme le Japon et l'Europe qui sont dépendants des importations. Deuxièmement, nous avons des technologies. Mais toutes les technologies disponibles ne sont pas toutes au même niveau de maturité. Et lorsqu'il y a des réflexions ou des politiques, il me paraît essentiel que les politiques privilégient d'abord les techniques qui sont aujourd'hui mûres sur le plan technologique, et c'est-à-dire qui ont un coût de développement pas trop loin du coût aujourd'hui de production de l'électricité par les moyens classiques. Alors dans ces technologies matures, pour ceux qui savent les ordres de grandeur, ou pour qu'ils aient quelque chose, c'est-à-dire entre 60 et 100 euros par mégawatt-heure, ou 6 à 10 centimes par kilowatt-heure, nous avons bien sûr les énergies thermiques, le cycle combiné gaz, le nucléaire, le charbon, l'hydraulique et l'éolien terrestre. Voilà aujourd'hui, technologiquement, les technologies qui sont à des coûts à peu près accessible. Alors ça dépend des pays, parce que dans les différents pays, les conditions ne sont pas les mêmes. L'hydraulique, il faut qu'il y ait des chutes d'eau, le vent, l'éolien, il faut qu'il y ait du vent. Et puis, il y a des technologies qui aujourd'hui sont à un coût qui est très loin du coût que je viens de dire, qui est 3 à 4 fois plus élevé. Et parmi celles-là, je dirais le solaire photovoltaïque, l'éolien offshore, le capture et le stockage du CO2, le système de transformation du charbon en gaz, les biocarburants, et là on est dans des zones qui sont 2 à 5 fois plus chères que les coûts actuels. Et pour ces technologies, eh bien, ce qu'il faut, c'est encourager la recherche, le développement, les expériences pilotes, afin de réduire ces coûts et les rendre compétitifs à terme, ce qui est tout à fait envisageable et pour beaucoup probable. Parmi les technologies, je citerai aussi, qui ont un coût, contrairement à ce qu'on croit, c'est les technologies relatives aux économies d'énergie. Il y a une phrase qui est séduisante pour les médias, qui est de dire « l'énergie qu'on ne consomme pas ne coûte rien ». Ce n'est pas vrai. Économiser l'énergie a un coût. Isoler une maison, c'est un coût. Et là aussi, il y a une préoccupation qui est de rendre ces technologies, de les développer dans l'ordre prioritaire de leur coût, un coût croissant. Alors aujourd'hui, face à ces situations, il y a beaucoup d'incertitudes qui font que les opinions publiques et les pouvoirs publics s'interrogent sur les meilleures politiques à suivre. Alors, dans les incertitudes qui sont présentes dans à peu près tous les pays, j'en citerai 4. La première, clairement, en ce moment, c'est la crise économique qui fait que, pour beaucoup, la priorité n'est pas l'investissement dans le secteur de l'énergie, mais des préoccupations en matière d'équilibre des financements, notamment publics. Deuxième incertitude, qu'il faut bien voir, qui est préjudiciable à tout le monde, c'est la grande incertitude sur les négociations climatiques. L'échec que j'évoquais tout à l'heure de Durban n'est pas une bonne nouvelle. Même si on se dit, ça veut dire qu'on va mettre moins la priorité là-dessus. C'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a une incertitude sur quel sera le coût demain d'émettre des gaz à effet de serre. Et donc, cette incertitude retarde les décisions d'investissement. Incertitude aussi géopolitique. C'est clair que les grandes incertitudes sur le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Iran suscitent des grandes volatilités. Et quatrième incertitude, c'est sur les technologies. Au titre de la Commission énergie 2050, on a entendu différents points de vue et c'est très frappant de voir que sur les technologies, il y a aujourd'hui des affirmations très différentes sur leur potentiel et sur leur compétitivité. En gros, à l'échéance de 2030, on sait à peu près ce que coûte une technologie. On peut extrapoler les recherches en cours. En 2050, honnêtement, il y a une très grande incertitude et c'est là où on voit les convictions venir compléter les analyses rationnelles. Alors, pour mettre en œuvre ces ressources et ces technologies dans ce climat d'incertitude, eh bien, je vais vous dire ma conviction, qui est aussi une conviction largement partagée aujourd'hui, il faut des politiques publiques. Cette phrase, je l'ai prononcée au Conseil mondial de l'énergie à Montréal l'année dernière, et je n'ai pas été contredit. Il y a aujourd'hui nécessité et conviction qu'il faut des politiques publiques, partout, dans tous les pays. C'est vrai. Et la deuxième conviction, c'est que les échéances dans le domaine de l'énergie sont longues. Faire un projet d'investissement, ça prend entre 5 et 10 ans, que ce soit une centrale nucléaire ou un projet hydraulique. Et la durée de vie de l'équipement va être de 50, voire plus, ans. Ces échéances sont plus longues que les alternances démocratiques dans les pays démocratiques. Ça veut dire qu'il faut un minimum de consensus. Et donc, il faut des politiques publiques, et il faut que ces politiques publiques soient au mieux consensuelles. C'est ce que nous avons eu en France pendant plus de 30 ans. Je souhaite, et je fais campagne pour que ça perdure, et je voudrais vous raconter une anecdote personnelle, c'est que j'ai eu l'honneur et le plaisir de constater que c'est le cas dans un pays comme la Grande-Bretagne. Lorsque, étant à la charge d'EDF, j'ai décidé de racheter British Energy pour développer le nucléaire en Grande-Bretagne, ayant fait l'analyse qu'un projet de développement de centrales nucléaires, ça prenait plus qu'une alternance démocratique, j'ai donc rencontré Tony Blair, qui m'a dit de lui-même de rencontrer Gordon Brown et David Cameron. J'ai rencontré tous les trois, et c'est quand les trois m'ont dit qu'ils avaient l'intention de relancer le nucléaire que nous avons décidé d'investir dans le nucléaire en Grande-Bretagne. Et je pense, pour la France, que nous devons retrouver ce consensus sur la politique énergétique, et je ne suis pas pessimiste du tout. Deuxième remarque que je voulais faire sur la gouvernance, c'est qu'il faut une gouvernance nationale, c'est-à-dire une politique énergétique nationale. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur certains sujets, ça ne suffit pas, il faut aussi une gouvernance internationale. Parce qu'il y a des sujets dont les enjeux ne s'arrêtent pas à la limite des territoires. Dans ces sujets évidents, il y a la sûreté, la sécurité, notamment nucléaire. Les radiations ne s'arrêtent pas aux frontières géographiques. Mais c'est vrai aussi pour des enjeux comme le pétrole ou le gaz. Le gaz de schiste, je pense que les préoccupations peuvent être définies de façon mondiale. C'est vrai aussi pour des secteurs comme le charbon. Et je pense que cette gouvernance internationale est possible. Je constate que dans des secteurs, je dirais pas voisins, mais où les enjeux se présentent de manière analogue, ça existe, notamment l'aéronautique. Aujourd'hui, en aéronautique, vous avez des normes de sûreté qui sont les mêmes partout dans le monde. Et je veux dire, ça va assez loin, cette conviction, c'est que je pense qu'on ne doit pas se faire concurrence sur la sûreté. Je vais jusqu'à dire que les producteurs, les développeurs de produits doivent se battre pour qu'il y ait des normes mondiales, et je pense que la France a des atouts pour le faire, mais que la sûreté ne doit pas être un enjeu de concurrence. Pour finir, je voudrais dire un mot sur la France, peut-être que vous voudriez revenir, pour dire ma conviction, c'est que nous avons en France la chance d'avoir, alors je vais faire un petit plaidoyer pro-nucléaire, nous avons la chance en France d'avoir un parc nucléaire qui vient d'être jugé par l'autorité de sûreté qui a publié son rapport comme étant un parc sûr, et peut-être n'en êtes-vous pas conscient, mais c'est un parc jeune. L'âge moyen de nos centrales est inférieur à 30 ans. Ces centrales peuvent vivre 60 ans. C'est la durée de vie qui est considérée comme l'objectif aujourd'hui aux États-Unis. Eh bien, tant que l'autorité de sûreté considère que ces centrales sont sûres, l'autorité de sûreté dit qu'elles sont sûres, et à chaque fois qu'elle se prononce, c'est-à-dire tous les 10 ans ou lorsqu'il se passe un événement, tous les 10 ans, systématiquement, l'autorité de sûreté ajoute des mesures de sûreté qui ne viennent pas se substituer aux précédentes, mais qui viennent s'ajouter. Et là, avec Fukushima, il y a eu un retour d'expérience qui s'est traduit par une forte addition aux normes de sûreté. Et pour résumer, si vous voulez, il faut bien voir, vous voyez bien, ce n'est pas parce que les centrales n'étaient pas sûres, elles sont sûres. Mais ce qui s'est passé à Fukushima a suscité une prise de conscience qui est la suivante. Le Japon, c'est pas de chance. Ce qui est arrivé, c'est au Japon, qui est un pays qui a l'image de pays industriels, de pays où les règles sont appliquées. Enfin, c'est considéré comme un pays qui est un modèle à la fois de gouvernance et de compétences. Et donc, on se dit, ce qui était considéré comme improbable s'est produit là. Donc, la conclusion, et qu'on a donné comme cahier des charges aux autorités de sûreté, ou qu'elles se sont données elles-mêmes, c'est de se dire, bon, ben maintenant, non seulement on va tout faire pour que des incidents ne se produisent pas, éviter, je ne sais pas moi, qu'il y ait une interruption d'alimentation, etc., ou qu'il y ait une inondation. On va tout faire pour que ça ne se produise pas. Mais on va ajouter une tranche qui est de dire, mais même si ça se produit, il faut qu'on trouve un moyen d'en limiter les conséquences. Et donc c'est ça qui vient d'être fait. Il faut bien voir que ça n'a rien à voir avec la génération des centrales, avec le... C'est une philosophie qu'on a ajoutée. La France le fera, EDF a déjà dit qu'il le ferait. Et ce que je veux dire aujourd'hui, et c'est pour moi un enjeu majeur, ce qu'il faut maintenant, c'est se battre tous, gouvernement, autorité de sûreté, exploitant, pour que ces règles soient des règles mondiales. Et ceci, avec, j'ai deux préoccupations en disant ça. La première, c'est que nous avons 58 réacteurs en France et qu'il y en a 400 hors de France. Donc il faudrait être sûr que les 400 autres sont au moins aussi sûrs que les nôtres. Et deuxièmement, si on n'a pas des règles mondiales, ça veut dire qu'on va se mettre des règles qui vont nous... Ça augmente le coût. Donc on va pénaliser notre économie en s'appliquant des règles qui ne sont pas appliquées par les autres. C'est vrai aussi pour le CO2. Ce que je veux dire aussi, c'est que ces investissements complémentaires qui sont donc nécessaires à la suite de ce diagnostic de l'autorité de sûreté sont des investissements qui ne remettent pas en cause du tout l'ordre de grandeur de la compétitivité du parc nucléaire, en particulier pour le parc nucléaire existant. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on voulait remplacer le parc nucléaire par des moyens nouveaux autres, il faudrait investir entre 5 et 10 fois le montant de ce qui est nécessaire pour maintenir le parc. C'est de l'ordre de grandeur, 5 à 10 fois. Et on aurait, en plus, une électricité qui serait plus chère que l'électricité actuelle. Donc, tant que le parc est considéré comme sûr par l'autorité de sûreté, nous avons la chance de bénéficier d'une énergie qui est très compétitive. Il faut que vous le sachiez, moi, je pense que vous le savez sans doute, c'est que le prix de l'électricité en France est à peu près moitié moins de ce qu'il est en Allemagne. C'est l'ordre de grandeur. On n'est pas à la marge, c'est des montants très importants. Alors, c'est vrai que de toute façon, dans 20 ou 30 ans, il va falloir remplacer les centrales existantes par de nouvelles centrales. Et là, la question qui est posée est légitime, c'est de se dire, est-ce qu'on va remplacer les centrales par de nouvelles centrales nucléaires? Sûrement. Dans quelle proportion? C'est à voir. Ça sera un petit peu, puisqu'on a 20 ans pour décider, ça dépendra de l'évolution de la maturité technologique des différentes technologies. Je ne vais pas aller plus dans le détail sur ces aspects, mais je voulais simplement souligner que nous avons la chance en France de disposer d'un parc qui nous permet d'avoir le temps pour faire les choix technologiques à long terme pour développer l'optimum d'une politique énergétique faisant appel à toutes les formes d'énergie et bien entendu aux énergies renouvelables. Et deuxièmement, je pense que la France peut jouer un rôle de promotion d'une véritable gouvernance mondiale sur la sûreté nucléaire. Je pense que c'est ce qui est fait pour le CO2. Mais ce n'est pas facile. Il y a 20 ans que le processus de Kyoto a été lancé. Il y a eu des progrès de fait, mais ce n'est pas facile parce que, clairement, pour certains pays, dépenser de l'argent pour réduire le CO2 n'est pas la priorité par rapport au développement économique. Je pense que pour la sûreté nucléaire, c'est plus facile parce que tout le monde a intérêt à faire en sorte que le nucléaire soit jugé sûr. Et bien entendu, les premiers qu'il faut avoir autour de la table, ce sont ceux qui développent le nucléaire aujourd'hui, c'est-à-dire les pays d'Asie et la Russie. Et pour conclure, je voulais dire que l'énergie, comme je vous l'ai montré, c'est un secteur dans lequel il y a à la fois des enjeux techniques, des matières premières, on ne peut pas le contester, mais aussi le génie des hommes. De ce point de vue, ma conviction, c'est que l'homme et la planète auront besoin de plus d'énergie pour progresser et pour faire progresser la qualité de vie sur la planète, et que de plus en plus, l'énergie, comme le climat, devront faire l'objet de politiques nationales, mais aussi de négociations internationales. Et c'est ce qui fait que je suis heureux, au sein du Conseil mondial de l'énergie que je préside, de pouvoir dialoguer avec des pays et avec des responsables qui ont des points de vue différents, mais qui sont convaincus de l'intérêt de cette gouvernance mondiale. Le prochain congrès du Conseil mondial de l'énergie sera en Corée, à Daegu, en 2014.
Vous venez d'entendre Pierre Gadonnex. Le texte de sa communication est disponible sur le site de l'Académie, asmp.fr. Et dans cette même série des communications de l'année 2012, série intitulée par la présidente Marianne Bastide-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel », asymétrie et force neuve au pluriel, vous pouvez écouter aussi une communication d'Henri Léridon, démographe, correspondant de l'Académie des sciences, sur les perspectives de la population mondiale.